franceinter.fr.
Bonjour Isabelle Adjani.
Bonjour.
On est très heureux de vous accueillir. Merci d'être là en direct à une heure aussi matinale parce que vous étiez sur scène hier soir comme tous les soirs depuis début novembre. Vous jouez au Théâtre de Paris Kinship. C'est une création, une pièce de l'américaine Carré Perloff, très librement inspirée du Phèdre de Racine. On va en reparler. On va en reparler après avoir salué la mémoire d'une grande actrice dont on vient d'apprendre la disparition, Virna Lisi, qui fut à vos côtés ou face à vous une inoubliable Catherine de Médicis dans La Reine Margot de Patrice Chéreau.
Oui, c'est un personnage qui a marqué, je crois, sa carrière à ce stade de sa vie. Et elle a incarné une Catherine de Médicis très sombre et solaire à la fois, et une espèce de louve qui regarde sa portée royale se mordre, s'aimer, se déchirer, et une portée à laquelle elle donne le goût du sang avec... un sens de la famille dénaturé, puissant, et voilà. Et ce sont toutes les contradictions de son jeu qui ont permis de faire exister cette mère qui aime si profondément le fruit de ses entrailles et qui ne peut pas s'empêcher de les dévorer.
On va écouter Virna Lisi dans La Reine Margot. On va écouter sa voix et son accent. On est au lendemain de la Saint-Barthélemy.
Où étais-tu ? Et Armagnac ? Ils ont tué Armagnac.
Et lui, qu'est-ce qu'on en fait ?
Pas lui, pas Henri ! Je veux pas qu'on le touche !
Il est notre sang, il est notre sang, ça nous porterait malheur.
C'est un chef, non ? On avait dit tous les chefs.
Je ne veux pas qu'on le touche ! Si vous vouliez le tuer, il fallait le tuer avant. Il est trop tard maintenant. Vous nous avez mariés devant Dieu. Il est mon mari, il est ton frère !
Tu refuses de renier sa religion ?
Je veux pas qu'on le touche.
Tu refuses toujours ? Pourquoi ?
N'insiste pas.
C'est fini maintenant. Il n'y aura pas de protestants dans la famille.
Arrête !
Tu le sais, ça ?
Laissez Margot s'occuper de son mari.
Virna Lisi, avec Daniel Auteuil, Pascal Grégory, Julien Rassam et évidemment Isabelle Adjani dans La Reine Margot de Chéreau. Quel film ! Isabelle Adjani, il fait partie des œuvres qui restent dans les mémoires, on vous en parle souvent.
Oui, c'est vrai que c'est un film qui marque les gens de façon très 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 profonde et qui me marque moi aussi, qui m'a marqué moi aussi et qui continue à exister à travers la mémoire de Patrice Chéreau, qui était juste un créateur, un véritable créateur. Et c'est un film qui, lorsqu'il repasse, apporte un peu de vie, ce qu'il repasse en télévision, à la mort de cet homme-là. Voilà.
Il est sorti récemment en version Blu-ray, en DVD, La Reine Margot. Et puis cette intensité, cette violence dont on a entendu un court extrait à l'instant, est-ce qu'on est tout à fait la même après une telle expérience ?
Une actrice, une comédienne n'est jamais exactement la même après un investissement de tout son être surtout lorsqu'il s'agit d'une œuvre. Il y a quelque chose qui se modifie, mais pour nous rapprocher encore plus de notre centre, puisque pour moi, ce métier, c'est un état, c'est une condition plus qu'un métier. Et on est source de toutes les émotions qu'on produit et qui se produisent en nous et que nous-mêmes nous retraduisons et nous retransmettons. Donc nous ne sommes jamais les mêmes.
Émotion que vous restituez en ce moment, donc chaque soir au théâtre. Votre première passion, votre grande passion, Kinship, donc cette pièce qui vous donne à nouveau un rôle de grande amoureuse, Isabelle Adjani. Alors je disais, c'est une sorte de version contemporaine du Phèdre de Racine, histoire d'une passion, fascination entre une femme de pouvoir, rédactrice en chef ou directrice d'un journal et un jeune journaliste stagiaire. C'est une création, disais-je, c'est cela aussi qui vous a attiré la prise de risque, l'envie d'explorer un territoire inconnu.
Oui, j'aimais bien que la pièce soit sans référence, n'ayant jamais été montée auparavant, ni aux États-Unis, ni ici. Mais c'est une pièce qui utilise un texte très très quotidien et qui met plus en scène des personnages et l'interaction entre ces personnages. Ce n'est pas un immense texte, c'est un texte qui a l'inconscient de son texte et il faut être disposé à recevoir ce théâtre qui est un théâtre américain qui est assez décomplexé par rapport à ça. Nous, ici en France, on aime le théâtre français, le théâtre de texte, le théâtre dit classique et on a tendance à réagir avec un peu de sectarisme lorsqu'on a affaire à quelque chose de plus qui n'est pas dans une écriture, qui cherche pas à être une langue. Et oui, pour moi, c'est une forme de prise de risque un petit peu paradoxale, mais c'est une pièce qui conjugue le rapport à la presse, au féminisme, à l'Église face à la pédophilie, l'art dans la société, la destruction de l'environnement. Et ça brasse comme ça, sans chercher à approfondir obligatoirement les choses. Et évidemment, tout ça dans le contexte des ressorts dramatiques de l'amour impossible.
Des ressorts de l'amour impossible avec un personnage, vous, je dis vous parce que elle n'a pas de nom dans la pièce, un personnage qui se fragilise sous nos yeux. Mmh. Je disais, une femme de pouvoir qui perd le contrôle de sa vie, progressivement.
Oui, mais ça c'est aussi la... c'est en fait le véritable thème qui m'intéressait, moi, de toute façon, en dehors de l'amour. Moi, je pense que je suis comédienne pour parler d'amour.
C'est une belle vocation.
Voilà, donc l'amour heureux, l'amour malheureux, l'amour qui possède, l'amour qui vous possède. Mais en tout cas, l'amour. Et c'est vrai que cette femme qui veut, sans le savoir, se sentir plus vivante que vivante et qui est prête à, sans le conscientiser, à perdre. À se perdre, et ça fait vraiment écho dans, pour moi, dans ma vie de femme, et ça fait écho, je le ressens tous les soirs, et je le constate, puisque les gens viennent me parler ensuite, et surtout les femmes, ça fait écho chez d'autres femmes. C'est un thème de toute éternité, et voilà.
L'amour sur scène et l'amour du public aussi, parce qu'il se passe quelque chose entre le public et vous, c'est la magie du théâtre. Je vous ai vu la semaine dernière, j'ai vu l'émotion du public qui vous acclamait à la fin de la pièce, qui était heureux de vous retrouver, et j'ai vu votre émotion de voir l'émotion du public.
Ah oui, pour moi c'est un rendez-vous d'une intensité absolue. Et c'est quelque chose qui est difficile à décrire. Je dis toujours que jouer, c'est un état amoureux et que le théâtre, c'est tout de même un lieu d'immense fusion. Communion. Moi, je peux pas jouer sans le public et je dis toujours qu'il est co-acteur. Et lorsque je suis d'ailleurs, ça peut arriver des moments de manque d'inspiration, même s'ils sont infinitésimaux, ou de manque à être inventif, je me tourne, mais avec le corps entier, c'est-à-dire totalement physiquement, vers la salle, et je reçois à ce moment-là une vibration qui est totalement régénératrice pour le jeu. Et ça, je ne sais pas comment expliquer ça. Pour moi, c'est l'échange essentiel, et c'est pour ça que c'est une véritable histoire d'amour. D'ailleurs, Barbara a écrit une de ses plus belles chansons là-dessus. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais vraiment avec un grand A. C'est pour moi, c'est un moment d'amour universel. Ce qui se passe au théâtre. Enfin, en tout cas pour moi.
Et c'est un moment d'amour que vous voulez reproduire trois fois dans une même journée, dans quelques jours. C'est un projet qui tient toujours. Un samedi, vous voulez faire une matinée, une soirée, une nocturne.
Ouais, c'est un désir que j'ai initié, c'est vrai, enfin, dont j'ai eu l'initiative. Enfin, c'est un désir qui a donné l'initiative d'imaginer une troisième représentation qui serait éventuellement, si possible, en nocturne, de façon à amener des gens qui sont dans une ouverture différente, peut-être des noctambules, mais qui sont dans un éveil autre. Et mes deux partenaires, Nils Schneider et Valeria Sconamiglio, sont prêts à suivre, pour rentrer un peu dans l'aliénation du jeu et de l'échange. Et, parce que quand on répète à l'infini les choses, on finit par plus ou moins égarer ses repères et s'égarer à l'intérieur de ses repères. Et ça peut donner des choses vraiment très intéressantes et plutôt créatives. Et donc, on a envie de voir ce qui se passe. Mais vous savez, il y a ces metteurs en scène absolument passionnants comme Olivier Pic qui font des espèces de balades théâtrales qui vont durer des heures et qui sont à peine interrompus. Et là, c'est plutôt modeste par rapport à une entreprise théâtrale aussi ambitieuse que celle-là, par exemple.
Isabelle Adjani, on va écouter la revue de presse. Là, je m'adresse à la rédactrice en chef qui joue sur scène tous les soirs et qui aimait
elle est fictive, hein,
les journées.
C'est très rédactrice en chef.
Vous aimez quand même lire les journaux, encore.
Quand j'en ai le temps, et pas d'une manière non plus...
Et plutôt le papier que les écrans.
Oui, plutôt le papier. Hein. Je dis toujours que oui, le papier, c'est ce qui me permet d'être un peu... rebelle à toute la dictature technologique. Et moi, j'ai besoin que ça reste humanisé quelque part, sous une forme ou sous une autre. Et pour moi, le papier, c'est quelque chose qui reste, qui de toute façon envoie de disparition, mais qui manquera, qui me manquera infiniment. Moi, j'aime lire des livres avec des livres.
Il reste encore du papier et Bruno Duvic en a les doigts un peu noircis.
Et c'est exactement de cela qu'il est question dans la revue de presse.
Eh ben, ça tombe bien. Isabelle Adjani, on vous retrouve dans quelques minutes pour parler, pour parler de ce dont vous souhaitez aussi. Vous aurez carte blanche pour nous parler de l'actualité ou de vos coups de cœur culturels. Et puis, je voudrais qu'on évoquera aussi ce que vous offrez aux auditeurs ce matin, qui est si précieux et qui est le cœur de notre métier, la radio, la voix. Votre voix. Mmh. Il est 8h34.